Mesdames et messieurs, bonjour.
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 Eh bien, rebonjour à toutes et à tous.
Il nous disait bonjour tous les jours. Il me disait bonjour tous les jours. Après les années Mourousi, marquées par une extravagance réjouissante, l'adolescente férue d'actualité que j'étais découvrait en 1988 un nouveau présentateur de JT.
Quels sont les départements français où il fait bon vivre? Nos confrères avaient déjà établi un classement en 1981. Dans les domaines de la santé, du dynamisme et de l'agrément, c'est l'Isère, la Haute-Savoie et la Haute-Vienne qui remportent la palme.
Tous les midis, le repas fini, le café moulu, en attendant le sifflement de la cafetière italienne, nous étions devant l'écran, devant Jean-Pierre Pernaut. De sa voix grave, il s'incrustait chez nous, il parlait de nous surtout, de notre région, du mimosa, des citrons, du carnaval et de notre accent, et nous donnait tout à coup l'impression d'être les Français les plus importants. Un Tour de France quotidien, non pas vu d'en haut depuis un hélicoptère, mais vu d'en bas, à hauteur d'homme. Quelques années plus tard, dans les locaux de Nice Matin, où je débutais ma carrière, je côtoyais l'équipe de TF1 menée par Gabriel Natta, l'ami, le proche de Jean-Pierre Pernaut, celui avec lequel il construisait une partie de la page régionale. Pernaut était le présent absent, absent physiquement, mais omniprésent dans chaque sujet élaboré depuis le sud de la France. À chacun son Pernaut finalement, à chacun ses souvenirs télévisuels, mais de toute évidence, il a inventé une écriture du paysage audiovisuel jusqu'à son dernier 13h, un jour de décembre 2020.
Finalement, j'ai bien fait d'arrêter ou pas?
Ah,
finalement, j'aurais peut-être pu tenir un petit peu, mais je rigole parce que c'est pas...
C'est trop tard.
C'est trop tard, à moins que...
C'est trop tard pour regarder.
Attendez, regardez bien le journal du 18 à la fin, et si je disais, et si c'était une blague?
L'instant M, Eva Rock, sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous. Hier, en fin d'après-midi, nous apprenions donc la mort de Jean-Pierre Pernaut à l'âge de 71 ans. Et depuis, les hommages aux journalistes se sont multipliés. Ce matin, dans l'instant M, nous avions envie de nous arrêter sur la façon dont il a réussi à construire un trésor original, son trésor. Comment il est parvenu aussi à imposer une nouvelle écriture en télé. Bonjour Catherine Nel.
Bonjour Eva.
Vous êtes directrice de l'information de France Inter. Mais ce matin, je m'adresse évidemment à celle qui a travaillé aux côtés de Jean-Pierre Pernaut entre 1984 et 2017, si mes dates sont bonnes. En tant que rédactrice en chef, mais aussi comme directrice de l'information. Quelle est la première image qui vous vient à l'évocation de Jean-Pierre Pernaut? Est-ce que c'est une photo, une odeur, un son?
Ah, c'est plutôt un son. Enfin, c'est une présence et c'est un son. Jean-Pierre, c'est une voix, un rire, une porte qui s'ouvre et lui qui arrive, qui déboule, qui défait tout ce que vous avez fait dans la préparation du journal, qui dit il faut délocaliser, il faut partir, il faut aller à Toulouse pour les inondations, il faut aller à Tchernobyl, il faut... C'est ça Jean-Pierre, en fait c'est une énergie, voilà, vitale.
Vous l'avez vu construire ce trésor, comment le journal a évolué au fil des années? Parce que 33 ans, on imagine que le premier journal ne ressemblait pas au dernier.
Non, mais surtout, moi j'étais jeune journaliste quand il a commencé à prendre le 13h. Et c'est vrai que nous étions un peu circonspectes. D'abord, le choc Mourousi-Pernaut était énorme. On passait d'un journal très parisien et international à la construction d'autre chose. Jean-Pierre voulait dire... autre chose et montrer, non pas une autre France, y montrer la France, mais en allant chercher une parole qui n'était pas qu'une parole de politique, de syndicaliste, la parole du gouvernement. Il voulait entendre tous les Français. Donc, petit à petit, nous sommes passés d'un intérêt avec effectivement un peu d'interrogation sur ce qu'il voulait faire, à la compréhension de ce qu'il voulait faire. Je dirais que tout le monde n'adhérait pas forcément à cette vision du journalisme, même en interne, mais comprenait très bien ce qu'il voulait montrer, ce que nous devions faire, nous, en tant que reporters, quand nous allions sur le terrain. Et petit à petit, oui, j'ai été sa rédactrice en chef pendant 3 ans. Donc voilà, j'ai compris de l'intérieur aussi
ce qu'il voulait raconter. Ouais. On sent qu'il veut changer de focale, en fait, s'éloigner de Paris, et surtout du côté institutionnel qu'on pouvait avoir dans les journaux. Et j'ai retrouvé ça, mais une de ses premières décisions a été de supprimer le rapport, le compte-rendu du Conseil des ministres qui se faisait tous les mercredis, samedi sur le pavillon. Et la directrice de, est-ce que la directrice de la chaîne, la direction de la chaîne, pardon, a accepté facilement la fin de ce qui était quand même une institution dans le JT du 13h?
Michèle Cotta était une journaliste politique, éminemment politique. Et pourtant, c'est elle qui a construit ce réseau des correspondants, ce fameux réseau de la PQR avec lui. Donc mettre en place des journalistes qui allaient travailler pour le journal de Jean-Pierre. Après, ils ont travaillé pour les autres journaux, mais au départ, c'était vraiment un réseau qui était construit pour donner une image différente de ces informations qui circulaient partout en France et qui remontaient, mais mettaient du temps à remonter. Oui. Là, c'était un côté instantané. La grande force, c'est que c'était décidé le matin et que ça arrivait dans le journal de 13h et pas deux jours après, en attendant qu'une équipe de Paris soit descendue,
disions-nous. Il a interviewé plusieurs fois les présidents de la République. Oui. La dernière fois, c'était avec Emmanuel Macron dans une école. On se souvient de cette image où ils sont assis sur des chaises pour les petites chaises. Voilà. Est-ce que cet exercice lui plaisait, selon vous?
En fait, le premier souvenir que j'ai, c'est une émission en soirée, donc pour TF1, le prime, dit-on, en télévision, avec Nicolas Sarkozy, où je lui ai demandé de présenter cette émission. Ça s'appelait Face aux Français. Et c'est ça qui était assez magique avec Jean-Pierre, parce que contrairement à cette énergie qu'il envoyait, il était pétri de doutes sur lui-même. Est-ce que je vais savoir faire le journal d'après? Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je suis capable de continuer à apporter cette information? Est-ce que je vais pouvoir être face à des Français et face au président de la République? Est-ce que c'est à moi de faire ça? Et c'est vraiment la question qu'il m'a posée. Mais pourquoi moi, quoi? Mais justement, parce que c'est toi, parce qu'il y a des Français, parce que je sais que tu n'interrogeras pas de la même façon, que tu ne seras pas ce médiateur à l'identique d'un autre journaliste. Donc, il avait envie. C'était un journaliste économique à la base. Il adorait la politique. C'est pas pour ça qu'il en mettait beaucoup dans ses journaux au quotidien, sauf pendant les campagnes, oui. Où je pense que c'est lui qui a accueilli le plus d'éditorialistes politiques à l'intérieur de son journal. Mais c'est vrai que la politique dite institutionnelle, il n'en mettait pas beaucoup dans ses journaux, mais ça l'intéressait.
J'aimerais qu'on écoute une archive qu'on a beaucoup entendue depuis hier, mais qui résonne avec ce que vous avez dit et qui résonne avec l'actualité. En avril 90, Jean-Pierre Pernoud se rend sur le site de Tchernobyl.
Effectivement, Tchernobyl, 4 ans après, je me trouve maintenant à proximité immédiate de ce fameux réacteur numéro 4 de Tchernobyl qui, à lui seul, a pollué la moitié de la planète il y a 4 ans. Derrière moi, dans le sarcophage qui protège aujourd'hui ce qui reste du réacteur, il y a encore 183 tonnes de combustible irradié et il y a à l'intérieur du réacteur environ 3 millions de fois plus de radioactivité.
Catherine Hell, on oublie ça, ce côté-là de Jean-Pierre Pernaud, celui qui aimait partir à l'étranger, traiter des questions internationales extrêmement importantes.
Mais parce que c'était un homme de conviction. Alors on a parlé de la première conviction, oui, qui était celle de faire remonter cette information et d'entendre tous les Français. Mais il avait une autre conviction, c'était d'être là où l'information était. Donc, il était à New York quand les tours ont explosé, après que les tours aient explosé. Il était à Tchernobyl, il était en 88 à Nîmes, quand il y a eu des inondations qui ont, je crois, causé des dizaines de morts. Il était à AZF, enfin à Toulouse, quand l'usine AZF a explosé. Il était là où il considérait que l'information se déroulait, que ce soit en France ou à l'étranger. Je me souviens de la guerre du Kosovo, où j'étais chef d'info, je n'étais pas encore rédactrice en chef à ses côtés. Il a passé 3 semaines, 1 mois à faire 3 quarts d'heure de guerre au Kosovo tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc c'était un homme à multiples facettes. Mmh. Effectivement, on retient ou on a voulu retenir uniquement l'homme des régions, ce qu'il était.
Oui, mais justement, est-ce qu'il se fichait des critiques qu'on nous traite de réac, par exemple, qu'on lui dise vous arrêtez pas de faire des marronniers, vous savez, ces sujets faciles qui reviennent fréquemment dans les JT. Il s'en fichait totalement.
Alors,
ça l'atteignait.
Je pense que c'était quelqu'un de très sensible, donc je pense qu'au fond de lui, bien sûr que ça l'atteignait. Mais il avait cette force et cette conviction que c'était ce qu'il devait faire. Donc, il passait outre. Et c'est ce qui, je pense, a fait qu'il a réussi à imposer petit à petit et avant les autres ce qui est devenu parfois, après lui, quelque chose d'un peu plus marqueté, oui, on va dire. Oui. Mais lui, c'était pas ça. Il y avait cette vraie conviction, cette sincérité d'essayer de montrer autre chose.
Et de montrer la proximité, c'est le mot qui revient beaucoup depuis hier soir. Sur l'exemple des antennes locales des radios généralistes, d'ailleurs, il a décidé de créer ce réseau de correspondants avec Michel Cotta, comme vous le disiez, partout en région. 19 bureaux, 150 journalistes qui travaillent pour le Trésor notamment. C'est le cas à Lille. Bonjour Sébastien Humbert.
Bonjour Eva.
Vous dirigez le bureau de TF1, justement, situé à Lille. Est-ce que vous pouvez nous raconter le rituel, de la conférence de rédaction avec Jean-Pierre Pernaut?
La conférence de rédaction, moi je n'y étais pas physiquement, puisqu'elle a lieu dans les locaux de TF1, moi je suis à Lille, mais tout se passait beaucoup par téléphone.
Eh oui.
Il faut savoir que Jean-Pierre était quelqu'un de totalement accessible. C'est-à-dire que vous étiez correspondant sur le terrain, vous aviez un doute, vous aviez une envie de faire un reportage plus long, parce que vous aviez de la matière, vous aviez fait une belle rencontre. Alors on l'appelait, il décrochait systématiquement. On lui expliquait ce qui se passait, on décidait ensemble, parce que le trésor, c'était le trésor de Jean-Pierre Pernaut. Permettez-moi d'ailleurs de saluer, d'embrasser Catherine, parce que je l'entends et ça me fait plaisir de l'entendre.
Et moi aussi, Sébastien.
Et donc, voilà, c'était vraiment toute sa personnalité dans ce journal qui transparaît. Jean-Pierre est le même en dehors du plateau que sur le plateau. Vraiment, j'ai rencontré, moi, le même homme. Sans aucune distinction. Il est authentique, il n'a jamais fait semblant, c'était son journal, ses coups de cœur, ses coups de gueule aussi de temps en temps, ses envies. Puis vous savez, le matin, enfin, Jean-Pierre, quand on l'appelait la veille pour lui dire « Tiens, demain, je pense à ci, je pense à ça », il nous disait « Écoute, attendons demain matin. »
Oui.
Parce que demain matin, quand on va se réveiller, l'humeur des Français sera différente de celle de la veille, le parfum de l'actualité, le sentiment des choses va être différent, donc attendons demain matin. Et ce que disait Catherine tout à l'heure est tout à fait juste. Le journal de 13h, c'est un peu comme l'étal du marché. C'est très frais. C'est frais du matin.
Oui, et il vous disait d'aller au café, d'ailleurs. Il vous disait d'aller au café et écouter les gens.
Oui. Moi, le nombre de fois, il m'a dit, mais écoute, pars, et puis vois ce que les gens ont à te dire. Voilà, il n'y avait aucun angle précis. C'était aller chercher l'humeur. Et puis du coup, ça donnait un sujet d'actualité. D'ailleurs, ça a été transformé aussi en un rendez-vous, hein, l'actu et vous, où toutes les semaines, on allait à la rencontre des gens pour savoir ce que eux retenaient de l'actualité. Jean-Pierre a toujours voulu avoir ce pas de côté. Jamais de prémâché, jamais de prêt à penser. Qu'est-ce que les gens vont nous dire sur l'actualité, qui va peut-être être très différent de ce que nous, journalistes et parisiens et autres, on pense. Et c'était ça sa grande force.
Oui, il avait besoin de votre retour du terrain, c'est ça? C'est ce qu'il aimait aussi dans ce dialogue qu'il avait instauré avec vous? C'est-à-dire que vous lui racontiez aussi la France que vous côtoyez à longueur de journée?
Ah mais complètement. Quelle est la météo? Parce que le temps qu'il fait aujourd'hui va dépendre de notre humeur, de nos activités. Est-ce qu'on va aller se balader sur une plage? Est-ce qu'on va profiter du beau temps? Est-ce qu'on en a marre du mauvais temps? Est-ce qu'on va aller jardiner? Est-ce qu'on va aller planter des fleurs parce que c'est le moment? Est-ce qu'on va aller boire un coup avec les copains? Et puis voilà, quand c'est l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Nous dans le Nord, on va dans les estaminets parce qu'on aime se retrouver ensemble, se mettre au chaud. C'est tout ça qu'on raconte. Et c'est tout ça que Jean-Pierre avait envie qu'on raconte. Et on le racontait, nous, avec une grande simplicité. Pas de fioritures, pas de complexité. Grande simplicité dans le propos. Et c'est ça aussi l'actualité.
Et vous allez continuer à le faire. Et vous allez continuer à le faire. Et vous allez continuer à le faire, Sébastien Humbert, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous dirigez le bureau de TF1 qui est situé à Lille. Je voulais qu'on dise un mot également avec Gilles Boulot, présentateur du 20h. Bonjour Gilles.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a une filiation entre vous et Jean-Pierre Pernaut, Gilles Boulot?
S'il y en a une, ce serait un grand honneur pour moi.
Ouais.
Parce que Catherine l'a dit il y a un instant, et Sébastien aussi, la qualité du reporter qu'il a été, du présentateur qu'il a été, c'est le pif. Ouais. Sentir l'humeur, sentir l'actualité, sentir ce qui va monter dans les heures à venir. Ce qui va intéresser les Français, on disait, mais quelle actualité va prospérer? Je ne dis pas que c'est une actualité forcément joyeuse, mais quelle actualité va prospérer et quelle est celle qui finalement ne tiendra pas la route pendant 2-3 heures? Et il sentait les choses parce qu'il avait une boussole. C'est que comme c'était profondément, Sébastien l'a dit, le même type dans le civil et dans le travail, d'une humilité de débutant journaliste qui remettait son titre en jeu tous les jours, il était curieux. Il présupposait, ce qui était faux d'ailleurs, qu'il ne savait pas. Et il disait, bon ben, ok, on va voir. Je suis sûr que si je fais venir le spécialiste d'économie, de politique étrangère, de politique sur le plateau, il va m'en apprendre. Et s'il m'en apprend, il apprendra aux téléspectateurs. Elle est incroyable, cette démarche. L'humilité du bonhomme a induit la qualité des journaux qu'il a fait. Et puis, c'était un partageur et un généreux. Généreux.
Et il avait une particularité que vous n'avez pas, Gilles Boulot. Il n'utilisait pas de prompteur. Ça peut paraître un détail, mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de regarder autrement la caméra et donc de regarder autrement les Français ?
Ah non, mais c'est une révolution absolue. Je serais incapable, on a longtemps eu à la cantine de TF1 cette discussion, lui et moi, je serais incapable de faire le quart de ce qu'il faisait. C'est-à-dire, il était tellement imprégné de son texte, imprégné de l'ordre des sujets, du premier au dernier. Il s'était tellement approprié cette lecture des choses qu'il n'a jamais eu de prompteur. Et à un moment, je lui dis, mais t'as dû avoir 1000 offres mirobolantes pour faire je sais pas quoi, le week-end, des magazines, le 20h, dit, non, je t'arrête tout de suite. La pression que je subis et que je m'inflige à moi-même me suffit pour le 13h, je n'aspire à rien d'autre. Et donc, il était le roi du 13h, il adorait ça. Et non, il n'y avait pas de prompteur, et il n'aurait pas su faire avec un prompteur. Et moi, quand je le regardais en tant que reporter, et en tant que collègue, mais je croyais ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il avait un poids, il avait ce qu'on appelle la présence, il avait une présence qui était incroyable.
Mais Gilles Boulot, je voudrais vous citer Michel Houellebecq. Dans La carte et le territoire, il écrivait « Le trait de génie de Pernaud avait été de comprendre qu'après les années 1980, fric et frime, le public avait soif d'écologie, d'authenticité, de vraies valeurs. » Vous êtes d'accord avec ça ? Avec ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que votre réponse est oui, évidemment.
Mais oui, non, mais ma réponse est oui, mais c'est un peu court comme réponse. La réponse, c'est oui, parce que c'est ce qu'il était. C'est la personne qui a une certaine notoriété, la moins dupe que je connaisse, des mirages de la notoriété. Il s'en contrebalançait. Il s'en foutait. C'était pas ça, son moteur. Son moteur, c'était son petit cartable le soir, quand je le croisais, il sortait tard de son journal, avec ses notes, ses journaux, la radio, écoutant, et un artisan, et contrairement à ce qu'on a pu dire, les gens qui ne regardaient pas forcément son journal, ils ne fuyaient pas du tout la complexité du monde.
Oui.
Il me disait, tu sais, moi, quand j'étais petit garçon, là, du côté d'Amiens, etc., François, Pierre Lazareff, qui essayait d'expliquer la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, que sais-je, à tout le monde, c'est l'un de mes modèles. Et donc, je pense qu'il a voulu prolonger ça. Il a voulu tout expliquer, mais de manière à ce que tout le monde puisse le comprendre. Il détestait les cuistres, les gens qui parlaient un langage incompréhensible, qui gardaient leur savoir pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'il avait une distance avec les patrons, les syndicats, les politiques. Ouh là là, il avait une saine distance avec ce monde-là.
Merci beaucoup, Gilles Boulot, d'avoir été avec nous ce matin. On a bien compris la façon dont vous dressiez le portrait de Jean-Pierre Pernaud. Catherine Hell, une dernière question rapidement. Est-ce que son décès, selon vous, marque pour vous la fin d'une époque à TF1 ou son empreinte sur le 13h va perdurer encore longtemps ?
L'empreinte perdure, évidemment, et elle perdurera parce que au-delà de lui, ça signifie quelque chose, son journal. Mais incontestablement, oui, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une époque, c'est la fin... Sans doute, oui.
Merci infiniment de nous avoir accompagnés pour cet instant M consacré à la disparition de Jean-Pierre Pernaud.